Vous écoutez
RMC.
Donc, et on va basculer, alors on est sur RMC en direct bien sûr, on est sur After Foot TV, on est sur la chaîne YouTube de l'After également, où vous êtes vraiment très nombreux, donc on vous salue, 8500.
Mais non.
Je sais pas, d'habitude...
8500
c'est incroyable, à 2h du matin.
C'est l'effet Younes Belhanda.
Ah, mais là c'est fou,
toujours,
je me demandais s'il n'y avait pas un bug. Je me demandais s'il n'y avait pas un bug d'affichage.
C'est l'effet Younes Belhanda qui défend
c'est les Marocains qui arrivent.
Alors, il y a peut-être un effet, effectivement, des supporters marocains. Donc, on y va. On va leur faire plaisir avec l'avant-match. Donc, de ce 16e. Alors, je disais, peut-être le plus beau 16e. En tout cas, sur le papier. Le Pays-Bas-Maroc. On a envie de voir celui-là.
C'est un derby. C'est pas un derby géographique, mais Younes doit le savoir.
C'est un derby culturel.
C'est un derby. Moi, qui a été très longtemps aux Pays-Bas, je peux vous dire que la communauté marocaine là-bas, c'est énorme.
Bien implanté. Ouais, c'est vrai.
Exactement, et puis en plus il y a quand même des joueurs qui ont choisi la sélection marocaine depuis Hakim Ziyech, les frères Amrabat, et puis d'autres,
Mazraoui,
le latéral gauche aussi,
Amadji, Lamdaoui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Ouais.
Et donc j'avais joué contre comment il s'appelle celui qui avait joué à Liverpool là aussi, très fin, très fin physiquement et technique, Saïdi. Ouais. Oh, le joueur incroyable techniquement.
Alors on va aller voir l'heureux gagnant de la loterie des 16e de finale, celui qui est à Monterrey au Mexique, pour donc commenter ce Pays-Bas Maroc. Edgar Grollo, salut Edgar.
Salut Jean-Louis, salut Younes, salut Kevin. On a l'équipe parfaite pour un Pays-Bas Maroc.
Ah bah bien sûr, on s'est organisé pour.
On est bien entouré,
pas mal.
Ah bah quand même.
On est pas mal. T'as été là-bas parce que t'es le seul à pouvoir dire Guadalajara.
C'est Monterrey.
Ouais, c'est ça. Mais là on n'est plus à Guadalajara, mais bon. Mais c'est la récompense pour avoir réussi à le dire.
Monterrey. Comment on dit avec l'accent?
Mais alors c'est magnifique, hein, Monterrey. Et on voit la fameuse. Donc pour décrire un petit peu pour nos auditeurs et ceux qui n'ont pas eu la chance, je vous invite à prendre votre téléphone, et sauf si vous êtes en voiture, et taper Stade de Monterrey. Il y a une vue exceptionnelle depuis l'une des tribunes sur la montagne de Monterrey qui s'appelle le Cerro de la Silla, ce qui veut dire la colline, la montagne de la selle, parce qu'elle ressemble à une selle de cheval. Et donc il y a l'une des tribunes de ce stade qui est un peu plus basse. Elle a été designée exprès pour, de 1, laisser passer le vent parce qu'il fait très très chaud, encore 31 degrés ici alors qu'il est presque 19h, et aussi pour qu'on puisse voir cette montagne qui est le symbole numéro 1 de la ville de Monterrey, la deuxième plus grande ville du Mexique. C'est vraiment un stade exceptionnel.
Ah oui, bah là tu nous décris bien et on a envie d'y être, on va pas se mentir. On est bien là où on est à New York, hein, le studio, etc. C'est très bien, mais là c'est magnifique.
Là si on pouvait se téléporter,
vous êtes 14e, 16e encore.
Là on prend 14e, on n'a pas bougé, on est toujours au 14e.
Hein. La vue sur la skyline.
Voilà, la vue est pas mal. On n'a pas ta montagne, mais ça va.
Enfin, en même temps, on va le dire, on va le redire, mais même le stade du Brésil cet après-midi là, tout jaune là qui explose à la 93e, c'est quelque chose.
Ah c'est sûr, c'est sûr.
Les stades sont exceptionnels.
On y va pour le match, les compos, Edgar, vas-y. Et il y a un choix à analyser côté Pays-Bas, mais vas-y, détaille les 2-11.
Oui, côté Pays-Bas, Verbruggen dans les cages, 5 défenseurs avec Ake, Van Dijk, Van Eke, à gauche Van de Ven, à droite Dumfries, au milieu de terrain De Jong et Gravenberch, et puis devant Somerville, Gakpo et Broby en pointe. Et puis côté marocain, le gardien Yacine Bounou, la défense Riyad Diop dans l'axe, Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, le milieu de terrain Boadi, El Ainaoui avec Mounaï légèrement plus haut, El Khanous à gauche de cette attaque, Brahim Diaz à droite et évidemment l'homme en forme Ismaël Saïbari devant et une nouvelle fois titulaire avec le Maroc.
Bon, au moins le Maroc affiche des certitudes dans les choix, Younes.
Ah oui, c'est le 11 établi, exactement le 11 qu'avait commencé contre le Brésil, contre l'Écosse, où ils ont fait un peu plus tourner le troisième match. Donc voilà, c'est l'équipe type qui a commencé, qui va être pour cette rencontre face aux Pays-Bas. Donc le groupe est au complet.
Voilà, groupe au complet. Il y a des certitudes dans le jeu, dans cette compo en tout cas. Et on attend de savoir si c'est le match où vraiment le Maroc va passer un cap. Parce que le Maroc a passé un cap dans les discours. Notamment, moi je me souviens de la veille de match contre le Brésil où en gros il disait « Nous on pense à la victoire finale et c'est pas le Brésil qui nous fait peur ». On s'est dit là déjà quand même le Maroc a passé un cap, mais là il faut le montrer sur le terrain et c'est ce 16e qui peut y contribuer.
Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas ce qu'en pense Younes, mais pour moi c'est le cas pour les deux équipes. C'est le cas pour les deux équipes. Les Pays-Bas qui sont arrivés un petit peu sur la pointe des pieds avec une bonne campagne des qualifs, mais après des matchs de préparation pas fous. Et par contre, qui pour moi en tout cas, ils m'ont régalé sur les trois premiers matchs. Alors c'est pas le Brésil 70 non plus, mais c'est pas les Pays-Bas 74, mais j'ai vu quand même une équipe dominatrice. Il y avait du spectacle, il y a eu des buts et donc les Pays-Bas et le Maroc sont deux de mes équipes favorites dans ce premier tour dans cette Coupe du Monde. C'est dommage qu'ils se rencontrent aussitôt, mais en tout cas le vainqueur de ce match, surtout si c'est vraiment un match voilà où il y a un vainqueur qui est sans conteste, je pense que je vais pas dire qu'ils prendront une option sur la victoire finale non plus, mais en tout cas ils prendront une option sur le statut de favori clairement.
Ouais. Younes, comment tu vois l'opposition?
Non, c'est vrai. Ah, mais ça va être très compliqué, hein. Ça va être compliqué pour les deux équipes, parce que ça va être une bataille du milieu de terrain pour moi, où le milieu de terrain va contribuer à la victoire finale. Donc celui qui aura le contrôle du milieu de terrain pour moi aura un grand atout et un grand enjeu pour ce match et pour la victoire. Après comme vous disiez, le Maroc a affiché ses ambitions en début de tournoi face au Brésil. Faut savoir qu'il y a une pression aussi populaire ou aussi la pression de la dernière compétition où on est arrivé en demi-finale. Donc voilà, maintenant le Maroc ne se cache plus et veulent arriver jusqu'au bout. Donc voilà. Après, bien sûr qu'il faut le mettre en application sur le terrain. Il faut pas que ce soit que des mots, mais sur ce qu'on voit en début de compétition, c'est pas mal. On pourrait avoir un moment, on a eu des phases de jeu par rapport au Brésil et à l'Écosse où ça a été par moment ou par séquence ou par une trentaine de minutes, 40 minutes. Ben on aimerait que ce soir ça soit pendant tout le match ou qui nous régale pendant tout le match, un match assez constant et dans toute la durée du match. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va savoir si on va aller plus loin.
Sur le chat YouTube, là, on met en avant le coup de pompe du Maroc en deuxième mi-temps, qu'on a vu à plusieurs reprises dans la compétition. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu parles d'un match continu sur 90 minutes.
C'est ça. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis, Younes, sur la bataille du milieu de terrain, parce que je pense que c'est peut-être sur ça que tu voulais rebondir, Jean-Louis, sur la compo.
Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que les Pays-Bas s'adaptent au Maroc en rajoutant un défenseur. Rapport aux trois matchs de poule, là, on a rajouté un défenseur central, quitte à faire du 1 contre 1 au milieu de terrain.
Qui prend la porte, et donc il n'y a que deux milieux de terrain de métier sur la compo, dans cette compo néerlandaise.
À dire que je ne suis pas fan de cette compo, moi. Moi, je ne suis pas fan du tout du fait de passer à 5. Les Pays-Bas, c'est le 4-3-3. Après, là-bas, il n'y a pas vraiment de 4-3-3. Ça n'existe pas le 4-2-3. Hein. C'est soit un 4-3-3 avec une pointe haute, une pointe basse, mais pour eux, ça reste un 4-3-3 où il y a beaucoup de changements au milieu de terrain. Mais moi, passer à 5, déjà, j'aime pas du tout quand ils jouent à 5. On voit qu'ils ne sont pas habitués. C'est pas leur système de formation. Et là, enlever un milieu de terrain alors que le milieu de terrain du Maroc est monstrueux, je vois pas l'intérêt, mais on verra.
Ouais, mais après peut-être que... moi je pense qu'au milieu de terrain ils vont ou peut-être laisser le ballon au Maroc et peut-être partir en transition au début pour voir un peu jauger dès le début du match, parce que je pense que s'ils jouent à 2 et contre 3 du milieu du Maroc, ils savent qu'ils n'auront pas le ballon, donc ouais, ça m'étonne qu'ils passent à 5 ou 6. Donc qu'ils joueront en transition.
Il y a eu un peu de bluff de la part de Koeman hier en conférence de presse, parce que justement il a été interrogé sur les qualités de son équipe par rapport à celle du Maroc, quel joueur allait pouvoir trouver des solutions face à cette équipe-là, et il a parlé de Reinders, de TJ Reinders, en disant lui il a certaines qualités, j'en ai parlé avec lui, etc. Donc il y a eu un petit coup de bluff et c'est pour ça qu'on pouvait l'attendre dans le 11 de départ, et finalement il a surpris peut-être une partie du monde avec cette compo-là.
On est d'accord. Donc ça va être intéressant à voir sur le terrain tout ça, bien sûr, pour cette rencontre. On peut entendre, grâce à nos accès prioritaires, grâce à la FIFA, le sélectionneur marocain Mohamed Ouabi, quelques secondes, quelques minutes avant le début de ce Pays-Bas-Maroc. Le coup d'envoi, c'est dans une grosse demi-heure désormais. On peut l'écouter, le sélectionneur.
Tweak. Ah, bonsoir. La préparation, elle était comme les autres matchs. C'est clair que la seule différence, comme je l'ai dit au joueur, c'est le contexte. C'est le fait que là, maintenant, si vous perdez, vous n'avez pas de bonus. Vous n'avez pas encore l'occasion de vous rattraper. Il va falloir faire au moins un minimum 90 minutes à 100%. Les joueurs sont préparés. On a préparé le match comme on a préparé les autres matchs, avec cette envie de jouer avec notre identité, avec nos principes et croire en nous. Et tout en respectant, bien entendu, comme toujours, les forces de l'adversaire. Et donc voilà, c'est...
And what do you expect from the Dutch side on the pitch?
Qu'est-ce que vous attendez du côté néerlandais?
Je viens de voir la composition. Ils ont rajouté un défenseur. Donc,
on vient de le dire.
Ils ont changé leur système. Ils ont terminé premier du groupe. malgré tout, ils ont changé leur système de jeu. C'est pas la première équipe qui le fait contre nous. C'est la preuve quand même qu'on fait bien les choses. Donc, comme je l'ai dit, c'est une équipe redoutable. C'est une équipe avec de grandes qualités. Et nous, maintenant, à continuer malgré tout à imposer notre jeu et essayer d'aller chercher la victoire.
And what's your final message going to be to the players before they go out on the pitch?
Le message final, je ne l'ai pas encore dit, donc je ne vais pas le dire. Je ne l'ai pas dit aux joueurs. Dans le temps que je ne l'ai pas dit aux joueurs, je ne vais pas vous le dire. Mais c'est clair que la clé, c'est de... Et on l'a vu dans les trois premiers matchs. C'est un match qui s'est terminé au tir au but et deux matchs qui se sont joués à la dernière minute. Que les efforts, il ne faudra pas les compter, qu'il faudra rester concentré plus de 90 minutes. Et l'endurance mentale va être super importante.
Voilà, donc pour Mohamed Wahbi, donc il a dit le même truc que nous. Hein, ouais. D'ailleurs, il y avait un peu de fierté en voyant que les Pays-Bas s'étaient adaptés au Maroc. Ouais.
Moi, je découvre Mohamed Wahbi, mais c'est exceptionnel le discours.
Ouais.
Le discours à chaque fois que tu l'entends, c'est très agréable à entendre, c'est très structuré, c'est très posé, ça semble très calme. Je suis vraiment agréablement surpris. Enfin, surpris, je découvre, mais je trouve ça vraiment très intéressant à entendre.
Ouais. Je suis d'accord avec toi, Kevin.
Il est d'origine belge.
Belge,
petit accent belge.
Ouais. Je me suis fait la remarque, Edgar. Kevin, hier en conférence de presse, toutes ses réponses étaient réfléchies et on sentait qu'il était presque dans une discussion en fait. C'est-à-dire que quelqu'un lui posait une question.
Professoral aussi, il est pédagogue, je trouve.
Des fois, professoral, c'est un peu négatif.
Oui, le côté
pédagogue. Positif, voilà. Il explique.
Rappelons qu'il était avec la sélection de jeunes avant, champion du monde en jeunes avec le Maroc. Peut-être que ça vient de là aussi. C'est une façon de parler avec tes joueurs, une façon de, une vision du métier d'entraîneur qui peut différente.
Alors, vous avez commencé en parlant de ça tout à l'heure, donc le derby, comme vous l'avez appelé, le derby culturel, parce que donc il y a quand même beaucoup de Marocains qui vivent aux Pays-Bas, je crois que c'est 400 000 la communauté marocaine. On a parlé des joueurs donc qui sont en sélection du Maroc, mais qui ont grandi ou dans leur vie ou footballistiquement aux Pays-Bas. Alors il y a une petite polémique avec les propos de Ibrahima Felaï.
Ouais.
Donc qui a dit donc lui il a 53 sélections avec les Pays-Bas.
Ouais.
Et il a dit pour ce match moi je suis pour le Maroc. Ouais. Mes racines sont au Maroc, mes parents sont marocains, toute ma famille vit là-bas, donc je suis pour le Maroc. Et c'est pas très bien passé là-bas.
Ce qui est marrant, c'est que Ibrahima Felaï, donc ça c'est mon époque, donc je l'ai bien suivi. C'est presque le dernier néerlando-marocain qui a choisi la sélection néerlandaise. Je pense qu'Hakim Ziyech, je sais pas si Younes sera d'accord avec moi, Ziyech, s'il avait été sélectionné un peu plus tôt, il l'aurait choisi aussi. Et comme il n'a pas été sélectionné à un moment, ensuite il a choisi la sélection marocaine et après ils sont tous partis avec le Maroc et aujourd'hui d'ailleurs en France on voit Bouadi qui aurait pu jouer
après Hakim Ziyech depuis le début il avait en tête l'équipe du Maroc depuis le début.
Mais s'il avait été sélectionné un peu plus tôt, il disait aux Pays-Bas que s'il avait été sélectionné tu vois à 19-20 ans, il aurait peut-être été, mais comme ils l'ont pas sélectionné très jeune au tout début quand il était bon déjà.
Après toi Younes, t'as refusé l'équipe de France quand même, hein. T'as refusé de succéder à Zidane pour aller avec le Maroc, hein. Bravo d'ailleurs.
Après ça c'est un choix du cœur, hein, ça il faut pas revenir dessus. Donc moi c'est derrière moi.
Voilà.
Non mais c'est sûr que
Pour rebondir, c'est vrai que sur les propos d'Afolai, je peux comprendre ce qu'il dit parce que bien sûr ses origines sont marocaines. Après, avec ce qui s'est passé en Hollande, où il y a eu beaucoup de critiques envers les Marocains, où ils pouvaient choisir la double nationalité, qu'ils ont choisi l'équipe du Maroc, il y a eu beaucoup de critiques à cet égard-là. Donc aussi, il a été aussi critique envers le Maroc sur le dernier match. Il a été beaucoup critique avec le Maroc. Je crois que j'avais vu une interview sur une chaîne hollandaise. Donc voilà, pour moi, ça me paraît logique qu'il défende le Maroc, parce qu'il a ses origines marocaines. Après, il a joué avec l'équipe nationale aussi d'Hollande. Donc pour lui, ça va être partagé un petit peu. Ça va être compliqué. Mais voilà, après, c'est chacun ses choix. Chacun défend ses couleurs.
Il y a trois joueurs dans cette équipe marocaine qui sont nés aux Pays-Bas. Mazraoui, Salahedine et Sofiane Amrabat. Et sur les trois, il y en a un qui a joué en espoir et dans toutes les catégories jeunes. Le seul qui a joué dans toutes les catégories jeunes, c'est Salahedine. Mazraoui n'a pas joué en jeune, mais il est formé à l'Ajax. Et Sofiane Amrabat, il a joué en U15, mais après, il a rapidement choisi d'aller avec le Maroc.
Et alors, Afolai, donc, les propos que tu as vu passer, Younes, c'est sur le match face à Haïti, où il a dit Haïti, le Maroc a très mal joué en seconde période, même s'il y a eu plusieurs changements. La façon dont le Maroc perd sans cesse le ballon face à des adversaires plus forts, on se fera tout simplement massacrer. On remet les adversaires dans le match en perdant des ballons inutilement à des endroits où on ne doit pas les perdre.
Ah bah de toute façon, si t'es à la télé néerlandaise, faut sortir la tronçonneuse.
Ah ouais, t'es obligé d'envoyer.
Ah, il faut pas. Ils sont pas là pour être politiquement corrects, les mecs. Après, c'est des analyses en général très pointues et franchement, c'est très agréable à suivre. En tout cas, moi, à mon époque, c'est un peu comme ça que j'ai appris le néerlandais d'ailleurs. Donc, c'était très intéressant à suivre, mais ils sont durs. Hein. C'est du Daniel Riolo à tous les étages. Il y a pas de voilà.
Il est peut-être néerlandais en fait. On pensait qu'il était italien,
je pense qu'il a un petit côté néerlandais. Mais de toute façon, c'est le football qu'il aime, hein. Le football protagoniste, le football on est les meilleurs.
Enfin, le football protagoniste, là, il rajoute un défenseur et ils vont bétonner contre le Maroc. Ah oui. Merci le football protagoniste.
Ah, mais ça, ce qu'a dit l'entraîneur, hein, ils ont une crainte du Maroc, hein, s'ils rajoutent un défenseur. Après, peut-être c'est une tactique où moi, je pense qu'ils misent plus sur le jeu en transition. Il sait qu'il a des ailiers qui sont pas mal et que ça peut finir au bout. Après, mais bien sûr qu'il y a une crainte. Hein.
Eux, ils te diront, je viens de voir là sur le site néerlandais, eux pour eux, au lieu de faire un 4-3-3, ils font un 3-4-3.
Donc, oui,
donc en fait, eux pour eux, ils sont encore plus offensifs puisqu'ils sont dans un 3-4-3 au lieu d'un 4-3-3. C'est-à-dire qu'ils ont plus de joueurs offensifs avec les deux latéraux qui sont plus hauts. C'est aussi pour ça.
Ça peut libérer Dumfries notamment à droite.
Mais je pense que c'est pour ça qu'ils le font vraiment. Parce que je les vois pas du tout. Alors ils vont jouer en transition parce qu'ils ont la vitesse de Brobet, ils ont la vitesse de Somerville et de Gakpo qui vont quand même très très vite les trois. Mais c'est vrai qu'on a très peu vu Dumfries hein, sur les premiers matchs par rapport à ce qu'on peut voir sur les dernières saisons ou même avec l'Inter.
Non, l'idée de libérer les pistons et tout, attends, Edgar, deux secondes. L'idée de libérer les pistons, ça, il n'y a pas de problème et tout. Moi, c'est plus au milieu de terrain qui est la force du Maroc où là, tu retires un joueur.
Soit privé de ballon.
Voilà, c'est plus ça le truc. Ça. Hein. Mais bon, Edgar, tu voulais dire ?
Non, c'est ce que j'allais dire. On découvre pas non plus que quand ils auront pas le ballon, ils seront à 5 derrière. Donc ils peuvent dire autant qu'ils veulent qu'ils ont que 3 défenseurs et qu'en fait les autres ils montent d'un cran. La réalité c'est aussi qu'ils vont se mettre dans cette disposition-là quand ils auront pas le ballon. Mais peut-être aussi qu'ils ont remarqué que le Maroc a plus de difficultés face peut-être au bloc bas. On les a vus se casser les dents parfois. Je pense notamment au match face à l'Écosse où l'Écosse avait pas les armes derrière pour se projeter et être intéressant avec le ballon. Mais le Maroc, à part 25 minutes, ils ont eu beaucoup de difficultés à se créer des occasions face à un bloc bas. Donc on peut imaginer aussi qu'ils vont essayer de se projeter et qu'ils ont analysé leur adversaire et comme le dit le sélectionneur marocain, qu'ils se sont tout simplement adaptés aux Marocains.